LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Alors que quatre de nos compatriotes sont depuis de longs mois otages au Liban, voici qu'une équipe d'Antenne 2 vient d'être enlevée par des hommes en armes. Notre première pensée va à nos compatriotes, bien sûr, dont le sort bouleverse chacun de nous, et à leurs familles qui sont si cruellement éprouvées.
Quand nous sommes interpellés, ils prennent nos papiers bien sûr, et là tout d'un coup on est stocké dans une cave, et le faisceau de lumière qui montre qu'on est vraiment en otage, c'est quand le lendemain matin, donc c'est un dimanche je crois, on nous allume la télé, c'est Télématin, et le présentateur de Télématin annonce qu'il y a 4 Français pris en otage au Liban, puis en fait les 4 c'est nous. Donc ironie de l'histoire, on était parti pour couvrir la mort d'un otage, on se retrouve nous-mêmes pris en otage.
Otage, la détention. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillot.
Quand vous êtes otage, d'abord, il y a une règle, c'est qu'un otage mort est un otage qui n'a pas de valeur. Or, si on vous kidnappe, c'est pour percevoir une rente, si je puis dire. Bon, là, vous dites, ok, bon. Je suis une marchandise qu'on va négocier à tel prix. Voilà, donc ça c'est important. La variable d'ajustement dans l'équation, c'est le temps. Ce qu'il y a, c'est que quand vous êtes otage, par définition, vous n'avez rien. Lorsque vous êtes dans une pièce sombre, sans bruit, vous êtes à nu. Regardez, hein, il n'y a rien autour. Ce qu'on se disait, c'est qu'il y a les infos qu'on vient nous donner, qui sont quand même extrêmement rares, mais qui sont intéressantes. Il y a le traitement qu'on vous réserve. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, à partir de ces deux données-là, il faut se bâtir un scénario, justement, de survie.
En Irak, Georges Malbruno et Christian Cheneau ont été transférés dans 7 lieux différents durant leurs 4 mois de captivité. Mais ils n'ont jamais été séparés. Les deux journalistes se connaissaient bien et s'appréciaient. Tous deux spécialistes du Moyen-Orient, ils avaient même écrit des livres ensemble. Au Liban, Jean-Louis Normandin a vu ses 3 confrères d'Antenne 2 partir au compte-gouttes. Déplacés de cave en cave dans la banlieue de Beyrouth et toujours enchaînés au barreau de son lit, Normandin est le dernier de l'équipe à avoir été libéré. Françoise Laribe et son époux Daniel ont vécu une détention collective avec 5 autres collègues d'Areva et de Vinci avant d'être séparés en 2 groupes dans le désert malien, une prison où les murs sont la chaleur, la soif et les dunes.
Dans ce premier camp, qui est assez beau d'ailleurs, dans un lieu assez beau, je réalise qu'effectivement, c'est une détention qui se met en place. Une détention dont on ignore toute la durée. Et en plus, le fait aussi que l'on soit 7, moi je dis, il faut peut-être que l'on essaie d'organiser, ça doit être mon côté scout, ça. Moi j'ai fait du scoutisme quand j'étais petite. Alors on se dit, il faut organiser, il faut mettre en place une... Si on ne veut pas se marcher sur les pieds, si on ne veut pas s'engueuler, parce que quand même, on n'a pas beaucoup d'eau, donc ça peut aussi générer des tensions. Il n'y a aucun endroit où on peut se retrouver. Enfin, il fait très chaud, on n'est pas à l'ombre. La nuit, il fait froid, on n'a pas beaucoup de choses, en fait. Parce qu'on a quand même un rapport au temps étrange, complètement étrange. Quand on commence une journée, on se dit que ça va être très, très long. Donc cette structure par des activités plus ou moins imposées, que l'on s'impose, nous permet quand même de vivre la journée. Et le soir, on se dit, on en a une de gagnée, là. Non, mais c'est exactement ce que je me dis. Moi, je me dis, j'ai gagné une journée.
Pierre Borghi était âgé de 29 ans au moment de son rapt, moins d'une semaine après son arrivée à Kaboul. Pour son premier séjour afghan, 2 ans plus tôt, il avait mené des enquêtes sociales dans des villages de montagne pour une ONG. Cette fois-ci, il était venu seul, sans encadrement, pour chercher du travail et réaliser un reportage photo sur le pays. Il a passé toute sa détention dans le noir.
Quand je suis capturé, il y a une première nuit où les mecs m'emmènent en voiture. Là, je sors, alors, à un moment donné, ils me mettent dans le coffre. On fait de la route, donc une ou deux heures de voiture, on passe des checkpoints, enfin c'est une... Voilà, on fait de la route et on m'emmène quelque part, quoi. Et les mecs, je sais pas ce qu'ils trifouillent, ils sont en train d'ouvrir un truc, moi je m'attends à moitié à me faire descendre sur place, mais du coup, les mecs, ils ouvrent, au bout d'un moment, ils me guident, ils me font descendre dans un petit orifice dans le sol, et je me retrouve là vraiment dans un endroit, mais une planque pour planquer quelque chose, pas quelqu'un, quoi. C'est-à-dire que je suis mis dans un trou qui doit faire, 1m50 de long, 1m70 de haut et 1m de large. Il va y avoir une première phase qui va être un petit peu celle où ils essayent de savoir, qui est-ce qu'on a attrapé. Sachant que je pense dans l'échelle de la valeur ajoutée, un mec qui cherche du boulot, c'est pas une bonne affaire. Et donc du coup, il y a cette première période un peu de flottement où les gars ils se retrouvent avec Pierre Borghi, chômeur, en train de chercher du boulot en Afghanistan. Ils sont un peu déconcertés. Et du coup, il y a ce moment de flottement là d'une dizaine de jours où je pense qu'ils savent pas trop quoi faire. Ils prennent pas encore contact avec ma famille, etc. Et à l'issue de ça, il y a un vieux qui descend dans le trou, une barbe blanche, quoi. Et donc le vieux descend avec une voix de fumeur de gitane de 70 ans, là, je m'en souviendrai assez longtemps, je pense, qui me dit you are a problem for me, if you stay here, I have problems, so you have to go, or I have to kill you. Enfin, c'est un peu le message, il faut que tu te barres d'ici, il faut qu'on se débarrasse de toi, parce que ça met de la tension là où j'en ai pas besoin, dans mon village, dans ma communauté. Et le reste des 4 mois va se passer dans ce trou sans que je puisse en sortir. Je ne peux pas m'y tenir assis parce que c'est trop petit. Je ne peux pas m'y tenir allongé parce que c'est pas assez long. Et c'est noir. Il y a un tuyau de gouttières qui arrive et qui se perd. Je ne sais pas où il va dans le noir. Il y a une espèce d'opercule que les mecs referment. Ils m'enchaînent les mains et les pieds. Ils referment l'opercule. Puis mettent un tas de gravier dessus. Et puis ils se barrent. Et puis moi, je suis là-dedans, quoi.
Le but du jeu des preneurs d'otages, dans un premier temps, c'est assez scientifique et c'est de nous briser.
Jean-Louis Normandin, ex-otage au Liban.
Donc c'est extrêmement violent pendant 15 jours. Donc devant la violence extrême, on est plus que démunis, quoi. Tous les soirs, on vient me chercher pour me faire un simulacre d'exécution, de torture, etc. Là, on est comme quelqu'un qui se noie, on survit, c'est même pas de la survie, on se demande comment on fait pour passer à travers ça. Quand le type me met un pistolet sur la tempe, il arme et il tire, j'entends le clic, et ça va très vite en plus. Il y a la violence des mots, il y a la violence des comportements. C'est comme on a tous vu des films, on est un petit peu accoutumé à ça, mais quand vous êtes vraiment dans la réalité, surtout qu'il y a un mort déjà dans l'histoire. Et je dirais que le plus terrible, c'est même pas ça, parce qu'après, ils vous ramènent avec un sac sur la tête, ils vous ramènent dans votre chambre, enfin chambre, c'est dans la pièce, on est tous les 4. Le plus terrible, c'est le décompte. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui, comme c'est tous les soirs, à je sais pas quelle heure, le plus terrible, c'est l'avancée du temps qui vous amène à ce moment-là où la porte s'ouvre, ils viennent vous chercher pour remettre le couvert. Ça, c'est assez effrayant. Et les quelques mots qu'on arrive à s'échanger... sont réconfortants, c'est-à-dire heureusement, enfin, mais parce qu'il y a eu des otages qui étaient seuls.
Les gars expliquent qu'ils sont là, en gros, qu'eux, ils espèrent être mobilisés pour procéder à un échange rapide et me rendre acquis de droit, qui paierait une rançon, ferait un échange, etc. Ce qui n'arrive pas au bout d'une semaine. Au contraire, la situation se tend. Il y a un autre otage américain, là, Toubib, qui est détenu pas loin. Et je sais qu'il y a une opération de libération qui se passe au moment où j'y suis. Donc c'est très près. On entend les combats, les hélicos et tout. Donc la pression monte là un peu à cet endroit, et au bout d'un moment, les deux combattants disent, bah écoute, ça va pas se faire. On va devoir te garder plus longtemps.
Et quels sont vos échanges avec les ravisseurs ?
Les échanges sont au quotidien sont extrêmement limités. C'est-à-dire qu'une fois tous les jours ou tous les deux jours, il y a le vieux de la ferme là qui vient, qui ouvre l'opercule, qui descend une assiette de riz ou une galette, ou, etc. Qui remonte l'assiette vide, qui prend le seau de merde qui est là, qui va le vider, et qui referme la trappe, et lui il parle pas anglais, il sait pas lire. Donc les échanges sont extrêmement limités et j'ai pas plus d'infos sur ce qu'il va faire. C'est minimaliste quoi, hein, comme relationnel. Voilà, je fais mes besoins dans un seau qui doit faire cette taille-là, dans lequel je mets de la terre que je garde sur les murs pour essayer d'assainir un peu l'ambiance. J'ai une ou deux couvertures. Il fait froid quand même là-bas.
Et vous dormez appuyé contre la paroi ?
C'est ça, appuyé ou en chien de fusil ou appuyé mi-allongé, mi-couché, quoi, comme je peux, compacté. C'est vrai que articulairement c'était difficile. Et puis des choses qui sont aussi psychologiquement lourdes, mais physiquement difficiles, c'est le manque d'hygiène. Parce que alors je me suis pas douché, j'ai pas changé de slip pendant 4 mois et demi. Je me suis pas lavé les mains. Et puis j'ai eu faim.
Quel type de mécanisme de survie est-ce que vous avez mis en place ?
Il y a des choses très concrètes et des choses plus abstraites, mais encore une fois, il y a la partie de santé physique. Éviter de tomber malade, parce qu'il n'y a pas de service de santé et il n'y aura pas de médecin qui viendra me voir quoi qu'il arrive. Par exemple, c'est toujours me nettoyer avec la main gauche et manger avec la main droite pour éviter toute contamination fécorale, par exemple. Et après, il y a des mécanismes psychologiques. Moi, il m'a été vital, je pense, de garder le sens du temps. Alors, c'était dur, parce qu'il y avait très peu de bruit. J'étais vraiment dans une espèce de caisson de privation sensorielle, souterrain. Mais il y avait juste... Je suppose que c'était l'hiver et qu'il y avait un mec qui coupait du bois tous les jours, pendant une heure, deux heures. Et j'entendais le bruit de hache sur le bio. C'est un bruit un peu sinistre. Mais au moins ça me faisait une animation, je veux dire, bah tiens, un jour a passé, ça y est, et ça m'a permis de compter les jours, parce que sinon j'avais aucune indication sur l'heure, la lumière, et j'étais tellement fier de moi d'avoir réussi à garder le bon compte de jours et de savoir où j'en étais, parce qu'après on passe des heures et des heures à dire ça fait 110 jours, non ça fait 111, attends hier c'était 111, est-ce que j'ai déjà compté 110, des routines de ouf comme ça. J'ai fait ça, et j'ai chanté, tout seul, des mélodies. J'ai travaillé pour essayer de reconstruire des paroles de chansons que j'avais oubliées, donc ça m'a fait un petit exercice intellectuel de travail de mémoire, travail de revenir sur des moments et des stimulations ou des choses qui sont heureuses. Il y a, évidemment, il y a pas mal d'auto-érotisme aussi, hein, ça permet de soulager des angoisses, de dormir, d'être...
Vous imaginez des choses aussi, des conversations
Ah bien sûr, on se parle à soi-même, on parle aux gens qu'on aimerait bien voir.
Tout fort, hein, c'est ça ?
Clairement, on parle à voix haute. Enfin, je parle à voix haute, je ne sais pas si c'est une pratique répandue, je ne sais pas si ça se fait quand on est plus... Enfin, mais j'ai parlé à voix haute. Ce noir et ce silence, en fait, il faut... Alors, le silence, il faut le combler en faisant du bruit, ou etc. Parce qu'au bout d'un moment, on entend ses propres tympans, c'est insupportable, quoi. Et le noir, à contrario, paradoxalement, je me bandais les yeux pour savoir que j'avais les yeux fermés et qu'il n'y avait rien à voir, quoi. Enfin, c'est parce que sinon, on cherche... T'as les yeux ouverts dans le noir, tu cherches un point, il n'y en a pas. Et ouais, et quitte à se créer des choses, avoir des hallucinations, c'est une fatigue mentale terrible d'être dans le noir complet, en fait. Et du coup, ouais, je me bandais les yeux pour être sûr de rien avoir à voir, quoi.
Vous dites souvent, c'était up and down. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, avec Christian Chesneau, vous élaborez des scénarios pour tenir, pour vous accrocher à quelque chose. Mais vous pouvez être complètement terrassé par une nouvelle et un détail totalement insignifiant. Ou, à l'inverse, être très très joyeux parce que vous avez une nouvelle couverture, par exemple. Voilà. C'est fou.
Ben oui, parce que comme on n'a rien, le fait qu'on vous apporte une couverture, ben ça vous enchante, quoi. Et puis, un jour, on nous apporte, je sais pas, un poulet ou des choses auxquelles on n'avait pas droit avant.
Georges Malbruno, ex-otage en Irak.
Quand vous êtes dans le dénuement, une pomme, une cuisse de poulet avec du riz, ça vous apparaît comme étant un luxe. Hein. Et donc, effectivement, et ça remonte le moral, et ça, parce qu'on est quand même si on est dans ce mode de survie, on est quand même un peu atteint, et parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des fausses annonces de fausses libérations. Je me souviens, le 18 septembre, ils sont venus un après-midi on nous faire une vidéo. Deux jours après, on nous transfère, et là on se dit, bon ben là on est dans le dernier sas, on nous transfère, on nous rapproche de Bagdad, on arrive à reconnaître un petit peu la géographie, et là on se dit, ben, cette nuit c'est bon quoi, ou demain matin c'est bon quoi. Et puis la nuit s'écoule, lendemain matin s'écoule, et puis le lendemain rien ne se passe. Quoi. Ça a été là on est down, quoi, parce que là on prend un coup sur la tête, quoi, parce que vous imaginez, Christian assez euphorique, dit demain je vais dîner à Amman chez le pâtissier du roi, c'était un ami, voilà, et là on s'en prend un coup sur la tête, et c'était surtout au début. Et après, finalement, on a changé un petit peu de tactique, on s'est dit, de toute façon, ne demandons plus de nouvelles à nos geôliers parce qu'ils nous bullshit, ils nous disent oui, Inch'Allah, Batcher, demain, voilà. Et demain, il ne se passait rien. On s'est dit, on ne demande rien, de toute façon, l'information viendra tôt ou tard. Bonne ou mauvaise, elle viendra. Donc après, on n'était plus qu'émandeur d'informations. Au début, on se disait, ça va durer un mois, trois semaines, un mois, ils vont négocier, trouver des apaisements, etc. Après, on s'est dit, bon, là, on rentre peut-être dans une période un peu plus longue, et donc là, on passait dans une posture un peu plus détention qui pouvait durer quelques mois, quoi. Et donc, voilà, après, bon, il faut tenir, on se dit, on est prisonnier, comme si on avait écopé d'une peine de prison dont on ne connaît pas le terme.
Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés.
Christine O'Crane, quel souvenir gardez-vous de l'ambiance dans les rédactions au moment des otages français au Liban ?
Quand j'avais la responsabilité du 20h de ce qu'on appelait à l'époque Antenne 2, je me souviens d'abord, évidemment, de Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. Il y a eu véritablement une très très forte émotion, avec une très très forte mobilisation autour de Kaufmann, et très largement grâce à sa femme Joëlle. Joëlle Kaufmann, médecin de profession. Mais pour moi, la grande histoire, enfin pour nous autres, rédaction de la 2 à l'époque, c'était évidemment quand une équipe de chez nous a été prise en otage. Et donc ça, c'était Philippe Rochaud, Jean-Louis Normandin, Georges Hansen, Aurèle Cornéa. Et là, moi, avant de revenir en France, j'avais longuement travaillé aux États-Unis, à CBS News, pour le magazine 60 Minutes, mais j'avais été très frappée par la façon dont les chaînes américaines, à l'époque, parvenaient de façon très efficace à mettre en page un journal télévisé ou un documentaire. Et en particulier, au moment des otages américains à l'ambassade à Téhéran, il y avait cette méthode qui consistait à égrener le nombre de jours où ces gens étaient retenus par la foule vociférante à Téhéran. Et donc, quand nos amis ont été pris à leur tour, je me suis dit que voilà, il fallait tenter d'imprimer dans l'opinion et d'imprimer auprès des responsables politiques cette idée de la durée. Parce qu'il n'y a pas seulement le choc d'une info, et en plus d'une info sans image. Il faut installer l'idée que, voilà, ce sont des gens, ce sont des journalistes qui faisaient leur boulot et qui sont pris dans un espèce de commerce infâme. Et donc, il faut installer l'idée que, voilà, ils vont y passer un jour, et puis 10 jours, et puis 80 jours, et puis 120 jours. Et donc, oui, tous les soirs, on mettait un bandeau avec le nombre de jours.
les jours défilent, c'est long, les semaines défilent d'une façon différente, plus rapidement, et puis on peut se dire, ça fait quand même un mois, ça fait quand même 2 mois. C'est ça qui est curieux. Et c'est là où je dis que on comprend aussi que la durée et le temps, ce sont deux choses différentes. Hein, le temps, on n'a aucune influence sur le temps, en fonction, mais la durée, on peut la gérer. C'est ça qui est très curieux, en fait. Et je me dis aussi, j'ai réussi, par exemple, à tenir 2 mois. Je m'imagine que je suis à la milieu de mon temps, donc il ne me reste plus que 2 mois à tenir, pas de problème. Quelque temps après, je me dis, j'ai tenu 2 mois et demi. Bon, après tout, j'ai tenu 2 mois et demi, il ne me reste plus que 2 mois et demi à tenir, pas de problème.
La gestion du temps, et c'est quelque chose d'assez difficile. Hein, c'est assez difficile. Il y avait la chaleur en plus, c'était l'été, donc il faisait quand même plus de 50 degrés. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que, et c'est un message aussi que j'ai voulu faire passer après, c'est que chacun d'entre nous dispose d'un instinct de survie et des capacités de résilience qui sont insoupçonnées parce qu'elles n'ont, Dieu merci, jamais été éprouvées. Moi, avant, on m'avait jamais mis dans un coffre. Dans un coffre, je suis resté 1/4 d'heure, 20 minutes, je suis pas mort. Je suis resté 15 jours sans me brosser les dents, je suis pas mort. Je suis resté 15 jours sans me laver, je suis pas mort. Je suis resté 4 mois otage, je suis pas mort non plus. Et donc, on avait en tête des exemples d'otages qui étaient restés plus longtemps, de gens qui avaient été prisonniers en Allemagne pendant 5 ans, qui avaient fait les camps. Donc voilà. Il y a aussi une espèce de vertu initiatique, je dirais, à ça. C'est-à-dire, on va en baver, ça va être compliqué, c'est pas facile, c'est dur, mais c'est pareil, il faut. On va y arriver, quoi. On va y arriver, parce que d'autres avant nous ont tenu, et qu'il n'y a pas de raison que nous ne tenions pas. Donc voilà, il y avait ce discours un peu qui, à la fois, un peu. C'est un peu la méthode Coué, mais qui est aussi. Qui nous a permis de tenir et de résister.
Le décompte mental des jours permet aux otages d'anticiper Noël. Parfois, comme Françoise Clostre, les otages basculent dans l'enfance et rêvent d'une liberté au pied d'un sapin imaginaire. L'équipe de Françoise Laribe a eu du jus d'orange en poudre à Noël. C'était la fête. Ils en ont gardé pour la Saint-Sylvestre. Les otages savent que leurs proches sont ensemble au moment des fêtes. Même s'ils sont très loin, c'est réconfortant, mais c'est à double tranchant. Il faut y penser sans tomber dans le labyrinthe de la nostalgie et des regrets.
Bah oui, c'est dur. Enfin, déjà, de but en blanc, c'est dur. Et il y a des moments où en fait, moi, je me suis senti glisser. J'ai l'impression d'avoir appuyé, si tu veux, sur le bouton panique au moment où les mecs ils m'ont sauté dessus là, à la sortie du resto, ils m'ont mis dans la voiture. Il y a un espèce de switch bizarre là qui s'est opéré et j'ai basculé dans un mode de survie, si tu veux, un truc très très rationnel où tu sais bien qu'en fait ta valeur, ça va être ta valeur d'échange. Il n'y a pas de lien affectif avec les mecs qui te gardent, avec voilà, si tu commences à être pénible, ils vont descendre. Si tu commences à vouloir t'échapper, ils vont descendre. Si tu représentes un risque pour eux, ils vont descendre. Ils vont sacrifier une valeur économique, mais eux, ils vont pas vouloir se mettre en danger. Et donc, il y a cette espèce de bascule dans une espèce de rationalité de calcul là qui se met en place. Et j'ai pas décroché de cet état-là, je pense, pendant les 4 mois qui ont suivi. Et effectivement, ça en vient à une espèce d'acuité réflexive là sur l'état dans lequel j'étais. Et du coup, les moments où tu te sens glisser effectivement dans une espèce de folie dépressive, tu vois, des boucles, des spirales, si tu commences à penser à ça, et ça revient, tu vois, que ce soit des regrets, que ce soit ta famille, que ce soit des angoisses, toutes sortes d'angoisses ou de névroses qui peuvent surgir. Et moi, j'ai des souvenirs d'avoir consciemment cette idée, non, il faut, enfin, faut pas commencer à glisser là-dedans, parce que tu vas, c'est la route de la folie, quoi. Et pour autant, oui, y a des moments où tu es tout seul, tu craques, tu pleures, tu tapes la tête contre le mur, tu essayes de plus être dans une angoisse qui est oppressive et qui devient physique. Ouais.
« Loin de devenir fou, Polybe, l'un des plus anciens otages de l'histoire, a rédigé près de 30 livres sur l'organisation politique et militaire de Rome pendant sa détention, qui a duré 19 ans. Le régime était moins contraignant pour les otages au IIe siècle avant notre ère. Il n'était pas en liberté surveillée et il s'est même promené en Grèce et dans la péninsule ibérique. Outre le même souci de meubler le temps et de créer, son expérience avait donc peu en commun avec l'exil contraint au Mali de Françoise Laribe et de son époux géographe Daniel. Ils n'avaient pas d'encre, mais ils avaient le désert.
Alors mon mari construit un cadran solaire là dans le sable. Et donc, on essaie donc de mettre en place une journée, c'est-à-dire que lui se lève en premier. Alors, on a eu quelque chose d'assez extraordinaire, c'est quand on a pu faire du feu par nous-mêmes. Et ça, c'est au bout à peu près de pas tout à fait un mois. Et allumer son feu et faire son feu, c'est extraordinaire. D'abord parce qu'on fait du feu, il faut aller chercher le bois, il faut construire son foyer... On fait chauffer de l'eau. Et puis le soir, les braises qui rougeoient, c'est joli. Hein, on a l'impression de recréer quelque chose qui est de l'ordre du foyer, hein, au propre comme au figuré. Ensuite, avec mon mari, on a instauré des parcours. On a droit à un petit périmètre, petit à petit, on peut l'agrandir. Surtout à la fin, ils se rendent compte que de toute façon, on ne peut pas partir. Bon, bref, on fait ce périple, on marche le plus rapidement possible, on arrive à calculer qu'on fait à peu près 7-8 kilomètres. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Après, quand on a de l'eau, on essaie de gérer notre eau pour pouvoir se laver un petit peu. Ça, c'est à peu près, on arrive à peu près à se laver. Au début, pas du tout, hein. On reste 15 jours sans se laver. On arrive à se laver à peu près une fois par semaine, un petit peu en gérant bien l'eau. On arrive aussi à laver, avec 2 litres d'eau, on se lave. Hein. On arrive à laver aussi nos vêtements parce qu'on garde l'eau qui a servi à la toilette. On arrive un petit peu à laver. Donc il y a ce genre, il y a le moment donc, de la balade, le moment où s'il y a de l'eau, on peut en faire quelque chose. Le moment où on va essayer donc, de parler, alors, soit sur des souvenirs, soit sur des projections sur l'avenir, soit des sujets qui peuvent nous intéresser. On essaie aussi de faire fonctionner la mémoire sur les voyages que l'on a pu faire, se projeter, en fait. Nos enfants, nos filles, on a un peu de mal. Moi, je ne peux pas parler de mes filles, parce que ça, c'est extrêmement difficile et très douloureux, parce qu'on peut imaginer ce qu'elles vivent. On peut évoquer nos petits-enfants, curieusement.
Ce qui était important, c'était de se construire une feuille de route de la journée.
Jean-Louis Normandin, ex-otage au Liban.
Ça paraît con, mais avoir sa petite feuille de route de la journée, là je vais faire des pompes, là je vais faire des abdos, là ils vont me porter un thé, là ça va être l'heure d'aller aux toilettes. Là, les jours de chance, on avait un bouquin. Mais il y avait des périodes, des grandes périodes donc vides. Et ces périodes vides, il fallait les organiser. Alors, est-ce qu'il y a, c'était... Moi, je tournais un bouton et puis c'est du 16/9 et puis je vivais des moments extraordinaires de rêve. Enfin, donc c'était du rêve, donc ça pouvait être des balades en bateau. J'étais souvent en bateau, à voile bien sûr. Aller avec des copains ou être avec des belles femmes ou aller au restaurant, ou etc. C'est très concret. En revanche, c'est vrai que la sensation de voler, j'ai jamais pu la reconstituer, mais c'est peut-être mieux quand même. Mais c'était un truc, parce que j'étais à la fois conscient, c'est-à-dire que j'appuyais sur on, et puis et hop, je partais comme ça, je déployais mes ailes et je sautais. Mais c'est vrai que c'était. Alors là, on est dans l'onérisme ou dans quelque chose de. Qui est loin de la réalité. Mais c'était pas sur demande, parce que c'est pas évident aussi. Il faut être dans un. Il y a des périodes où la couleur de votre esprit, de votre âme et de votre. Est plutôt ténébreuse, dure, quoi. Donc là, on est plutôt dans le mode survie. Il y avait des modes, quand même, il y avait des périodes de désillusion. Enfin, moi, j'ai eu des périodes, toutes sortes de périodes, de terribles. C'est-à-dire que. De désespoir, hein, aussi, il faut bien le dire. C'est pas le mec, lui il est fort, il fait des pompes, il met un bouquin et puis il prend son vol. Non, c'est pas vraiment que ça. il y avait vraiment des moments où c'était très 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 dur.
Je viens de m'apercevoir qu'à part mon œil, il y a deux choses qui ne sont pas paralysées. Mon imagination, ma mémoire. Je peux imaginer n'importe quoi, n'importe qui, n'importe où. Me faire caresser par les vagues à la Martinique. Rendre visite à la femme que j'aime. Me prosterner devant Ozymandias, le roi des rois. Je peux imaginer n'importe quoi. Vivre mes rêves d'enfant, mes ambitions d'adulte. Maintenant, je veux me souvenir de moi tel que j'étais.
Dans le film Le scaphandre et le papillon, le réalisateur Julian Schnabel met en scène un patient atteint du Locked-in syndrome qui a lui aussi pris son envol. L'otage en détention aurait donc les mêmes besoins impérieux qu'une personne tétraplégique au nerf inférieur crânien paralysé.
Vous disiez ce premier campement, il était beau, est-ce que vous pouvez le décrire ?
Alors c'est un campement de dunes, de petites dunes, avec les couleurs sont superbes, hein, c'est des ocres, des beiges, bon, il y a le bleu du ciel, sauf quand il y a un banc de sable, parce qu'on en a eu quelques-uns. C'est pas les plus beaux camps, on en a eu un qui était somptueux, et alors celui-là, effectivement, je le garde en mémoire, et c'est celui que je le garde le plus en mémoire.
Et voilà. Qu'est-ce qu'il avait de plus, cet autre camp ?
Un superbe sable. Alors, comme on venait de dormir pendant un mois sur du rocher, je suis contente de retrouver le sable. En plus, moi, j'aime les formes douces. En fait, il y a de très belles dunes avec, au fond, ces massifs rocheux qui sont noirs, un peu noirs. Et il y a des bouquets d'arbres comme ça, par-ci, par-là, dans lesquels on peut construire un semblant de cabane. Donc, non, c'est un côté paisible, curieusement paisible. Et ce campement, on l'intègre, je sais, le lendemain de l'anniversaire de mon mari. Je lui dis, tiens, c'est mon cadeau d'anniversaire. J'étais contente, je lui offrais quelque chose, c'était pas vraiment bon. Et effectivement, ça a été un moment où je retrouve une espèce de sérénité, parce que, bon, l'influence quand même de la beauté, ça c'est pas rien. Et du paysage et de la nature, donc c'est très beau. Voilà. Après, on a eu des campements qui étaient très noirs, parce que la roche est noire, et ça, c'était enfermant.
Vous étiez souvent déménagé ?
Alors, ça, c'était le plus dur. Enfin, c'était terrible, le déménagement, parce que c'était traumatisant, parce qu'on ne savait pas. C'était le soir, en général, hein, puisqu'on n'oublions pas le contexte de son, de guerre... De guerre entre eux, hein, entre Libanais, bien sûr. Donc les départs, les changements d'endroit étaient le soir, à la nuit.
D'une cave à l'autre ?
Alors, ça allait d'une cave à l'autre. Parfois, c'était des trajets en voiture, mais impossible de savoir si c'est un circuit en boucle. On revenait dans le même endroit, c'était impossible parce qu'on était là nous-mêmes cagoulés, dans des conditions pas sympas, et la nuit, donc on ne savait pas où on était. Et donc c'était assez traumatisant parce qu'on, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne savait pas si c'était vraiment un déménagement. Hein, et on ne savait pas si on allait garder la même équipe. Parce que le problème de changement d'équipe et de changement d'endroit, c'est qu'il faut reconstruire des liens. Il faut reconstruire des liens, reconstruire un semblant d'habitude qui a pour effet de vous rassurer, de vous sécuriser, de vous retrouver. Juste un exemple, on faisait avec Aurel, on faisait des dés avec des... Il n'y avait pas d'électricité, ou rarement. On avait des bougies, et avec les couleurs de bougies, on faisait des dés, pour jouer aux dés. Donc on les planquait, parce que c'était interdit. Et quand ils fouillaient, ils ramassaient les dés, et il est jeté, et c'était traumatisant, donc ça c'était des moments très compliqués.
Olivier Dubois, qui est donc correspondant au Mali pour votre journal Libération, a été pris en otage le 8 avril 2021, alors qu'il s'apprêtait à interviewer un chef djihadiste dans le nord du Mali. Nous sommes le 16 juin 2022, ici, au siège de Libération à Paris. Sonia Dolsal-Stolper, donc vous êtes chef du service Planète de Libération. En tant que tel, j'imagine que vous êtes impliqué sur ce dossier. Quel type de bilan d'étape est-ce que vous le donneriez aujourd'hui? Dans quelle phase sommes-nous, si tant est qu'on peut parler de phase?
Vous savez, ces histoires d'otages, c'est toujours un peu chaotique au début, quoi, parce qu'on est, voilà, on apprend qu'un journaliste a été enlevé. On se dit d'abord, c'est pas possible. Ensuite, la première semaine, on se dit peut-être qu'il y a eu une erreur, quelque chose qui s'est mal passé. Et en fait, il va être libéré, il va revenir vite fait. Et tout ça sera très vite un très mauvais souvenir, mais juste un souvenir. Et puis la réalité s'installe, qu'on s'installe dans la durée. Et là, les choses se mettent en route. Donc, on est plus maintenant dans une phase. Ça commence à faire long, hein. On a marqué cet anniversaire qui est toujours compliqué, des un an de son enlèvement. Donc on est dans cette phase où on se dit c'est très très long. Après, on sait aussi d'expérience que les histoires d'otages, c'est souvent très long. Donc on se raccroche au moindre élément qui nous permet de garder espoir, et on se rattache à l'idée absolue et définitive qu'il va revenir et qu'il va être libéré à un moment donné. Donc évidemment, on surveille de manière extrêmement attentive la situation au Mali, et évidemment à chaque soubresaut de ce qui se passe là-bas, que ce soit une attaque, une réaction du gouvernement malien, une réaction du gouvernement français, une déclaration, une arrestation, on a immédiatement, au-delà de l'intérêt journalistique, on est immédiatement en train de se dire quel impact ça pourrait avoir sur Olivier, sur sa détention. On essaie toujours de se rassurer en se disant, quoi qu'il arrive, il y a toujours des lignes de contact qui permettent peut-être d'avancer quand même sur ce dossier, mais on n'en sait rien en fait finalement. Et c'est pas facile d'être dans cette espèce d'incertitude constante. Et à chaque fois qu'on a un signe un tout petit peu positif, que ce soit on a eu une vidéo, enfin on a eu pas beaucoup de signaux, mais bon, on se dit, ah ça y est, peut-être que c'est enclenché et peut-être qu'il va être libéré.
I think today is the 8th of January 2013. My name is Pierre Borghi. I am 29 years old. My father's name is Vincent Borghi. My mother's name is Claire Borghi. Her father died 2 years ago at Christmas. I have two brothers. One is Etienne, he's 25 years old, and one is Roland, he's 15 years old. I have one sister, her name is Caroline, she is 24 years old. My grandfather, before he died, he had dogs.
How many dogs?
He had two that I know. One was Shadow. It's an old dog, and the other one was Dummy. I love music, rock and roll. My parents will know that. I want to see my family again. I want to hug my mother. I want to tell her to carry on. I hope I will see them again. And I want to go back to France and see my friends and family.
La première vidéo de preuve de vie, elle est assez administrative, quoi, quelque part. Parce que ça officialise un statut, quelque part, mais c'est aussi rassurant, parce qu'on sait qu'il y a une volonté de diffuser la vidéo, de procéder à un échange. C'est pas juste une salle d'attente avant exécution sommaire, quoi, quelque part. Donc c'est rassurant.
est averti la veille qu'il va y avoir cette vidéo. C'est extrêmement difficile, on ne dort pas de la nuit. Hein. On sait qu'on ne pourra pas s'exprimer librement, que le discours nous est dicté. Bon, c'est à la fois un espoir et à la fois... c'est terriblement angoissant. Terriblement angoissant. Parce qu'on ne sait pas comment ça va être utilisé. Après, il y a toute une mise en scène qui est avec les drapeaux derrière, les hommes en armes. Je ne sais pas si vous en avez vu deux, trois. Pourquoi c'est si angoissant? Parce qu'on ne sait pas très bien comment on va s'en... Moi, je ne sais pas comment ça va être perçu par mes filles, comment ça va être... je ne sais pas. Je n'arrive pas à analyser cette angoisse que ça peut donner. Je ne sais pas.
Les vidéos, donc, c'est une preuve de vie. Donc, on a compris rapidement le jeu, hein. Machiavel. Donc on vient nous dire, vous allez dire, vous êtes en bonne santé, bien traité, puis éventuellement s'il y a un message à faire passer à vos autorités sur le voile, par exemple en disant qu'il faut absolument abroger cette loi, sinon nos vies peuvent être en danger.
D'un seul coup, quelque chose se passe qui va briser ce quotidien dont on a fait une bulle. Mmh. Hein, on se met dans une bulle. Hein. Enfin, moi, du moins, il me semble que c'est comme ça qu'on pourrait le dire, qu'on est en détention, on est dans une bulle dont on se protège des agressions extérieures qui sont multiples. Hein. Elles sont déjà d'ordre psychologique, d'ordre physique, d'ordre moral. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Donc, on est dans cette espèce de bulle et d'un seul coup, tout est brisé et il faut qu'on se mette en scène. Sortir de ça, ça nous renvoie, si vous voulez, à notre vie, à la vie en France, quoi.
La dernière vidéo de preuve de vie est plus dure parce que, en fait, à ce moment-là, ils me disent aussi, tu commences à être problématique. La France ne veut pas, répondre à nos demandes, etc. On n'arrive plus à négocier. Tu commences à être encombrant, on va être obligé, si ça marche pas pour cette dernière vidéo, de te tuer, quoi. Donc déjà, ça met un petit coup au moral. Et puis par-dessus, il y avait eu un échange de courrier qui avait été fait avec ma famille, et les mecs, ils me font lire une lettre de ma grand-mère en live, en vidéo. Et autant dire que ça secoue, quoi. Hein. Et c'est le moment où on finit, malgré toutes les résistances qu'on peut avoir développées, par pleurer devant la caméra. Et ça, ça, c'est plus dur. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, hein, leur laisser ça et tout. Mais au bout d'un moment, ils y arrivent quand même, quoi. Etc. Mais moi, ça m'a... J'ai été, comment dire... Je vais pas dire j'ai été ravi de recevoir une lettre de ma grand-mère, parce que c'est pas les termes qu'on voudrait mettre dessus, mais c'est des courriers qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont beaucoup ému. Et le fait de leur laisser cette émotion... pour qu'elle soit sur cette vidéo de preuve de vie, c'est quelque chose... Enfin, moi, c'est un truc... Je leur en veux de m'avoir fait ça, quoi.
Dans l'avion militaire Hercule C-130, qui vient de décoller de Bagdad, Christian Chéneau et Georges Malbruno sont installés à l'arrière de la carlingue, chacun dans ses pensées. Ils ne parlent pas. Un psychologue venu de Paris leur propose alors de reprendre la conversation entamée la veille. Les deux hommes décrivent en longueur le moment où ils ont cru que c'était fini. Le psychologue les écoute attentivement et leur dit « c'est ce qu'éprouve un sujet lorsqu'il est confronté à sa propre mort. Cela s'appelle l'effroi. »
Donc il y a une espèce de routine qui s'est instaurée comme ça des vidéos. Il nous disait « Moufawadat, il y a des négociations ». On percevait ça plutôt comme un bon signe. Le rite a été cassé à un moment donné en novembre, au bout de 3 mois, lorsque visiblement les négociations achoppaient. Et ça a été le moment le plus difficile de détention, lorsqu'il y a eu une vidéo où clairement on nous a fait comprendre que l'un d'entre nous pouvait être tué. Et puis après, les conditions de détention se sont dégradées, on nous a transférés. Et là, on a eu 8 jours durs parce que là, on s'est dit, il ne faut pas exclure qu'il y en a justement un d'entre nous qui soit liquidé. On nous avait dit, les Français vous lâchent, ils ne vous veulent pas. C'était plus compliqué. Là.
Ce moment, lors de ce moment, vous allez en fait rencontrer l'effroi.
C'est-à-dire, on a envisagé comme une hypothèse sérieuse le fait que l'un d'entre nous soit exécuté. Et à partir de là, effectivement, on était dans une situation d'effroi. On était prostrés. Je me souviens, il faisait sombre. On entendait l'écoulement d'une goutte d'eau qui s'écoulait de l'évier comme ça, qui ponctuait un peu comme une horloge un peu macabre la journée. Et là, j'ai expérimenté ce que voulait dire avoir l'estomac noué, parce que j'avais pas mal au crâne, mal à la tête, mais j'étais noué à l'estomac. Et on se parlait pas avec Christian, et je fixais un point, et là, on échafaude des scénarios mortifères. La nuit, je me souviens, j'avais des cauchemars assez aussi mortifères, parce que, bon, bref, vous imaginez des. Vous vivez votre propre enterrement, enfin, bon. Ouais. Et puis, autant jusqu'alors, on avait été solide. Autant là, effectivement, on a, en tout cas pendant 48 heures, on a vraiment accusé le coup. C'est dans cette période-là où moi qui ne suis pas pratiquant du tout, j'ai dit à Christian, écoute, j'ai envie de prier, mais je me souvenais plus ni du Notre Père, ni de Je vous salue Marie. Donc j'ai demandé à Christian qu'il me réapprenne ces deux prières. Et on a prié beaucoup comme une sorte d'automate, parce que lorsque vous êtes otage, vous devenez un peu automate. Je vous disais tout à l'heure, vous blindez, c'est ce qu'on disait. Notre expression, on dit, il faut se blinder. Alors effectivement, on s'est blindé, on s'est bien blindé au début, on a résisté, etc. Là, on se prend cette crise en pleine tête, et là, on a sombré. J'avais conscience de dire que c'est une prière, c'est une conception un peu utilitaire de la religion, mais dans un espèce de dialogue que j'avais noué avec je sais pas qui, l'au-delà, je l'avoue, j'ai dit, écoutez, j'ai besoin d'une planche de salut. Là, je suis à nu. Je confesse que c'est un peu utilitaire, mais je le fais. Et on l'a fait de manière. On avait défini un certain nombre d'intentions de prière pour la famille, pour ceux qui nous soutiennent et les comités de soutien, pour que les négociations se passent bien. Et on tournait comme ça, on faisait des rondes. C'était novembre, donc il faisait froid. On mettait nos couvertures sur nous. Et on priait comme ça, silencieusement, parce qu'une fois, ils ont vu qu'on priait, ils nous ont dit non, ça c'est interdit. La seule prière, c'est si vous priez en direction de la Mecque. Voilà. Et donc, une espèce comme ça, on était devenus des automates de la prière, quoi.
Il y en avait sept, c'est ça?
Oui, voilà. On faisait des intentions de prière, et toutes les heures, toutes les 2 heures, quand on n'avait rien à faire, on disait, bah, tiens, on va en faire une petite couche, etc., quoi. Mais c'était, ça nous a aidés, parce que on s'est dit, voilà, il y a quelque chose qui nous a aidés. Il y a une main qui nous a secourus. Et donc, continuons jusqu'à la fin, etc. Et puis, le dimanche, le type qui nous surveillait, justement le geôlier, qui lui était pas loquace, contrairement aux autres, donc on lui demandait rien, mais on l'avait testé déjà un peu avant, parce que c'était le Ramadan, et il nous avait dit, voilà, on va quand même vous nourrir, etc. Et là, il est venu le matin, je me souviens, nous apporter un thé, et il nous demande en arabe comment ça va, et on lui dit, non, ça va pas, parce qu'il y a la menace, et il nous fait. Voilà, ce geste-là qui est typique du Moyen-Orient, qui veut dire en fait non, sous-entendu ne vous inquiétez pas. Et là, il nous annonce, Arafat est mort, il y a les condoléances, mais les négociations vont reprendre, etc. Et donc là, on a commencé de sortir du tunnel.
Libre de ce que l'on pense, mais on n'est pas libre de l'exprimer. Qu'est-ce qu'on fait de ça? J'étais quand même l'enquiquineuse, hein. De fait que je sois une femme, et en plus, j'avais parfois quelques manifestations qui les embêtaient. C'est agaçant au quotidien, parce que je sens que je n'ai pas voix au chapitre, et ça m'énerve. Tout passe obligatoirement par Daniel. On ne m'adresse pas la parole. On m'oblige à mettre un foulard que je mets comme. Un petit foulard, quoi. J'attache ce qui m'énerve, parce que d'abord, moi, je ne supporte pas ça. Et, au point de vue chaleur, hein, ça m'énerve. En plus, ça gratte, on ne peut pas se laver les cheveux. Enfin, c'est quand même désagréable. Donc, le soir, il m'arrive de l'enlever. Et puis, un soir, évidemment, j'ai les cheveux. Enfin, j'ai la tête découverte. Il y a un jeune gardien qui vient nous apporter notre pitance, là, qui. Et il jette le panier, la gamelle, je dis bien la gamelle, hein, par terre, et il part avec un cri d'horreur. Donc le lendemain, délégation du chef de notre camp, avec l'imam, enfin, etc., qui appelle Daniel et qui lui font la leçon. Et alors ils ont cette phrase extraordinaire, il dit « Mais comment t'es pas jaloux ?» Vous voulez pas rire de ça? J'ai 70 ans, je suis dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Je suis vêtue de paille, comme on dit chez nous, de haillon, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc il se fait remonter les bretelles, le pauvre homme, et pas moi. Hein. Et on lui explique bien qu'il ne faut pas qu'on voit même pas une mèche de cheveux, rien, rien.
Est-ce que vous vous êtes disputé, comme le font tous les couples, pendant cette détention?
Oui, ça nous arrivait de nous engueuler, vous pouvez dire le terme, et avec Thierry aussi. Ça a été assez limité quand même, pas énormément, parce que bon, je peux m'énerver, mon mari peut m'énerver, on est normaux. En revanche, il y a une réelle complicité qui s'opère, il y a des échanges, on est quand même face à face pendant 5 mois et demi. Voilà, il y a bien Thierry, mais Thierry, c'est difficile pour lui, il faut bien imaginer. Il est face à un couple qui a 60 et quelques années, lui en a 30, on a fêté ses 30 ans. Donc, avec une culture de jeune, une culture aussi différente, complètement, c'est pas facile pour lui. Hein. Et alors, après, on réalise, ça a été plus facile quand j'étais plus là. Donc oui, absolument. Hein. Moi, je veux construire la cabane comme ça, et lui ailleurs. Enfin, attendez, c'est pas possible.
À l'inverse, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous embrasser, de pouvoir vous cacher pour vous embrasser, vous tenir dans les bras ?
C'est impensable, si vous voulez. D'abord, tout geste, j'allais dire, un peu de tendresse est complètement banni. On se rend bien compte que on est épié quand même. Hein, c'est... On dort donc sur des roches, etc. Pendant la nuit, parfois, ils viennent nous voir. C'est là où on se dit qu'on est otage.
Pourquoi là ?
Non, dans cette vie du quotidien, on se rend compte qu'effectivement, rien n'est possible, on peut pas vivre, quoi. Et puis, alors qu'on comate doucement, il fait chaud, donc on est à l'ombre, là on voit arriver. Donc notre premier traducteur, qui parlait aussi très bien le français, qui arrive en voiture, qui nous appelle, moi je bouge pas, parce que voilà, Daniel y va. Et à ce moment-là, Daniel me dit « Françoise, viens, il y a quand même une information qui te concerne, là, et qu'on est en train de nous donner. » Donc j'arrive, et je ne sais plus son prénom. Ah non, c'est Daniel qui me dit « Écoute, apparemment, tu serais libérée très prochainement. Oui, c'est peut-être que tu sois libérée. » Alors je dis « Bon, moi, je veux bien être libérée, mais il est clair que je ne suis pas libérée sans mes compagnons de détention. » Je dis « C'est mon mari ?» Thierry ou rien du tout, et moi, voilà, c'est un lot, on ne sépare pas. Et ce brave Touareg, en retraite, très courageusement, dit « Oh non, mais c'est pas tout de suite, on va voir, c'était juste une information, vous comprenez, ce serait pour des raisons humanitaires, voilà, on vous libérerait, mais bon, rien n'est sûr, rien n'est, c'est pas tout de suite. » Donc, il s'en va. J'en discute avec Daniel, j'ai dit l'ordre de question, moi je pars pas. Il me dit d'abord, on ne te donnera pas la parole, tu pars ou tu pars pas. Et puis on s'est dit, de toute façon, ce n'est pas dans l'immédiat. On se réfugie là derrière, et puis 2-3 heures après, c'est dans l'immédiat que ça se fait. D'une façon extrêmement brutale, extrêmement... La femme, là on avait un traducteur espagnol à l'époque, la mujer, elle monte en el coche, elle monte dans la voiture, et point barre.
Vous ne pouvez pas toucher votre mari au moment de lui dire au revoir, alors qu'à ce moment-là, n'étiez pas sûre de vous.
Si, à ce moment-là, si, on se prend rapidement, comme ça, par les épaules, dans les bras. Et puis j'ai dit à Daniel, tu tiens un maximum, tu tiens. Et il me dit, écoute, je peux tenir, il me dit, jusqu'à 8 mois, je tiendrai bien jusqu'au 8e mois. Je ne pensais pas que ça serait. Je me disais, bon, dans 2-3 mois, c'est bon, il sera libéré. Parce que pour moi, c'était ça, c'était un premier. Et bon, il a tenu 3 ans. Fort bien, d'ailleurs. Je veux lui rendre hommage, parce que là, Chapeau. Non, revenir au bout de 3 ans, pas mal. Hein.
C'était Otage, la détention. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillon. Merci à Georges Malbruno, Jean-Louis Normandin, Françoise Laribe, Pierre Borghi, Christine Okrent, Sonia Dolsal-Stolper. Mixage, Manuel Couturier. Stagiaire ENS, Diane Méhard. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Marie-Sophie Guillet de la Brosse. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination LSD, Perrine Kervran.
It's you.